Radio Okapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Meurtre d'un médecin à Uvira hier lundi, ses confrères de la province observent un arrêt de travail de 2 jours depuis ce mardi. Un service minimum est organisé dans tous les hôpitaux du Sud Kivu. Une position des FAR a été attaquée la nuit dernière dans l'agglomération de Lusowa, territoire des retours au Nord Kivu. Bilan, un officier FAR a été tué ainsi que 2 combattants Maïmaï. L'invité de Radio Okapi ce midi, c'est le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï central. Il explique pourquoi les ex-réfugiés congolais retournés d'Angola sont déplacés de Kananga vers le site de Kandi à plus de 15 km du centre-ville. Bonjour à tous. Service minimum dans tous les hôpitaux du Sud Kivu à partir de ce mardi jusque jeudi. C'est l'ordre des médecins qui décrète ce mouvement. Les blouses blanches manifestent ainsi leur colère. À la suite du meurtre d'un médecin à Uvira, dans des circonstances non encore élucidées, les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche ailleurs lundi. Jean Kassami.
Du Sud Kivu a invité tous les responsables des hôpitaux de la province à organiser les services minimums de 3 jours à partir de ce mardi. Le mot d'ordre a été suivi selon les secrétaires de l'Ordre des médecins de la province. La corporation médicale envisage aussi d'organiser vendredi prochain une marche de protestation contre ce qu'elle appelle les assassinats récurrents des médecins. Le secrétaire provincial de l'Ordre des médecins exprime leur ras-le-bol.
Nous refusons d'être des cibles, des personnes pour lesquelles nous faisons des nuits blanches pour les sauver. Vous vous rappelez du cas de Dr. Gilles Diamou, qui a été tué chez lui également à Uvira l'année antérieure. Même si on a appris qu'il y a eu des condamnations, mais nous, on n'a pas encore été satisfaits de la manière dont les enquêtes ont été conduites.
Une équipe de médecins est partie ce mardi de Bukavu pour Uvira afin d'assister aux obsèques de leur collègue tué à son domicile dimanche passé par 2 personnes cagoulées et armées, d'après nos sources. L'Ordre des médecins Sud Kivu demande aux services de sécurité d'identifier et de punir les auteurs de ces crimes. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Toujours dans le domaine sanitaire, sachez que le ministre de la Santé est en mission à Goma au Nord Kivu depuis hier lundi. C'est pour évaluer la mise en œuvre de la riposte contre la maladie à virus Ebola et aussi s'enquérir de la situation générale du système de santé dans cette province. Au programme du ministre de la Santé, une série de visites de certaines structures sanitaires. Sa délégation s'est rendue à Beni ce mardi matin, indiquent les sources du gouvernorat. Sifa Maguro.
Arrivé à Goma, accompagné du professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre Ebola, le ministre Eteni Longondo a, dans la foulée, rencontré son homologue rwandais dans la même journée de lundi dans la province de Rubavu, voisine de la ville de Goma. Les deux parties ont évalué les travaux conjoints menés dans la lutte contre Ebola tel que décidé lors de la réunion bilatérale du 6 août dernier. Après son échange avec le ministre provincial de l'Intérieur, qui fait l'intérim du gouverneur du Nord Kivu, le ministre congolais de la Santé s'était déjà dissatisfait du résultat déjà enregistré dans la riposte contre Ebola. Il l'a dit à la presse du gouvernorat.
Nous avons la baisse en incidence et puis la baisse en mortalité. Nous sommes venus évaluer la situation et nous allons faire en sorte qu'avec le comité technique qui est placé ici, avec le professeur Muyembe, que nous puissions vraiment terminer, éliminer cette épidémie dans le plus bref délai.
Il ajoute par ailleurs, avoir le souci de palper du doigt la situation du système de santé en général pour s'enquérir des difficultés, car selon lui, Ebola est une urgence, mais il ne doit pas faire oublier les autres problèmes de santé. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Une position du 2e bataillon du 3409e régiment FRDC a été la cible d'une attaque la nuit dernière dans l'agglomération de Lusoa, au nord-ouest du territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito, au nord Kivu. Selon l'information donnée par certaines sources civiles dans la zone et confirmée par les sources militaires, un officier FRDC a été tué. Ces combats auraient fait d'autres victimes parmi les civils et du côté des assaillants, les mêmes sources avancent un bilan provisoire de deux Maïmaï tués. Bernard Danyangi.
C'est aux environs de 1h du matin ce mardi que les Maïma, qui appartiendraient au groupe des Mazembe, ont attaqué cette position FRDC à Lusoa, indiquent nos sources. Côté bilan, le porte-parole de la 34e région militaire confirme la mort d'un capitaine FRDC et la neutralisation des deux assaillants parmi les Maïma et Mazembe. D'autres sources à Kanyabayonga parlent d'une fillette tuée et d'une femme blessée grièvement par balle parmi les victimes collatérales dans cette agglomération. C'est depuis environ un mois que le 2e bataillon de 34e et 9e régiment FRDC est en opération de traque contre les groupes armés dans cette zone du groupement Kanyabayonga, au nord-ouest de la chefferie de Bwito, indique le major Njigi Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire. L'objectif, selon lui, est de stabiliser cette zone allant de Lusoa Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, où les groupes armés à connotation ethnique insécurisent la population civile. Lusoa a déjà accueilli des milliers de déplacés en provenance de cette zone opérationnelle, précise certaines sources coutumières locales. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Restons au nord Kivu, où deux personnes, un militaire et un civil, ont été arrêtés depuis le week-end dernier. Ils sont détenus au cachot du commissariat de la police du territoire de Beni. Ces personnes sont des présumés voleurs des matériels de la radio communautaire du peuple de Hicha lors de l'attaque du lundi 9 septembre dernier. Sekumbi Katondolo.
Un militaire du bataillon commando nouvellement affecté à Ouicha et un civil vivant dans cette commune rurale, chef-lieu du territoire de Beni, ont été arrêtés par les éléments de l'ordre le week-end dernier en possession de deux ordinateurs volés lors de l'attaque du 9 septembre dernier à la radio communautaire du peuple d'Ouicha. Ils seront ensuite détenus au commissariat de la police d'Ouicha. Mais le samedi vers 6h30, le militaire présumé voleur impliqué dans l'attaque de cette radio va profiter de l'absence d'un des gardes commis à ses cachots pour s'évader. Contacté, l'auditorat militaire garnison de Beni Butembo précise que le policier qui était des gardes ainsi que les civils impliqués dans cette affaire ont été transférés à Beni où leur dossier sera instruit. Signalons par ailleurs que la corporation de médias du territoire de Beni a levé toutes les mesures de protestation liées à cette affaire, notamment les journées sans radio en attendant l'aboutissement des enquêtes. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Le président Félix Tshisekedi poursuit son séjour dans la capitale belge. Son agenda prévoit ce mardi une réunion de travail avec le premier ministre Charles Michel. Il rencontrera aussi le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reinders. Cette visite vise également à rétablir progressivement les relations qui s'étaient détériorées entre les deux pays. Blaise Makassi pour plus de détails sur les enjeux du séjour de Félix Tshisekedi en Belgique.
La visite officielle en Belgique doit durer 3 jours, avec notamment au programme une invitation à déjeuner mardi chez le couple royal, Philippe et Mathilde, avant un discours devant les patronats de la Fédération des entreprises belges à Bruxelles, rapporte l'agence France Presse. Mercredi, le président congolais sera en visite de travail à Anvers, en Flandre et en Gembloux, en Wallonie, pour soigner les liens avec les deux communautés linguistiques, néerlandophones et francophones. Un rendez-vous est prévu à Anvers avec l'industrie diamantaire. Il doit aussi être reçu jeudi par le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Pour le chef de la diplomatie belge Didier Reinders, la visite de Félix Tshisekedi vise à rétablir progressivement une relation qui a souffert depuis 2015. De son côté, Félix Tshisekedi dit attendre de cette visite une reprise de la coopération militaire belgo-congolaise et la promesse d'aide pour renforcer les systèmes de santé et d'éducation dans son pays, la République démocratique du Congo.
À la 7e et à la 8e.
Parlons de la gratuité de l'enseignement avec cette précision du ministre de tutelle. Selon Willy Bakonga, cette gratuité est totale de la première à la 6e primaire, puisque le gouvernement va prendre tout en charge. Toujours d'après lui, la motivation est supprimée de la maternelle à la 6e primaire. Seuls seront payés, notamment pour les classes de 7e et de 8e, les frais de scolarité qui seront fixés par les gouverneurs de province. Le ministre de l'EPSP dit avoir apporté cette précision à la suite des interprétations diverses suscitées par ses propos sur la gratuité de l'enseignement de base. Le ministre Bakonga a été joint au téléphone par Honoré Missenga Kalala.
Est-ce que les parents doivent payer à la 7e et à la 8e? Les parents ne paieront pas les frais de motivation. Les parents paieront seulement les frais de scolarité qui seront fixés par les gouverneurs de province. Mais pour les primaires, tout a été pris en charge par l'État congolais. Ça, c'est la volonté du président de la République. Il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. La motivation des parents est supprimé de la maternelle jusqu'au secondaire. 7e, 8e, jusqu'au 6e secondaire, la motivation des parents est supprimée. Mais au primaire, tout est supprimé. Au secondaire et à la maternelle, les parents ne paieront que les frais de scolarité. Comme ça que je ne parle pas de la gratuité au vrai sens du terme, puisqu'il y a les frais de scolarité qu'on doit payer seulement.
Le ministre de l'EPST demande donc aux responsables des écoles qui avaient perçu les frais de motivation auprès des parents de les rembourser sans tergiverser. Cette gratuité de l'enseignement de base ne fait pas vraiment les affaires des écoles privées, notamment à Kisangani, province de la Tchopo. Si elle est saluée et respectée, les effectifs baissent tout de même. C'est le cas du complexe scolaire Okapi. Pour une classe de 60 élèves en moyenne les années précédentes, à 2 semaines de la clôture des inscriptions, cette école n'a encore enregistré cette année scolaire que 30 élèves par classe, une baisse d'environ 50%. Une situation qui a des répercussions financières et rend difficile le fonctionnement de cette école. La promotrice du complexe scolaire Okapi, Madame Abedi Sengayamba-Yamba, explique les difficultés rencontrées au micro de Jean-Didier Ogobani.
Même s'il y a de gratuité, l'école officielle s'est débordée d'enfants. C'est comme si les enseignants des écoles officielles trouvent qu'on leur avait arraché le gâteau dans la bouche. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent continuer jusqu'à la fin de l'année.
Cela n'impacte pas votre chiffre d'affaires?
Oui, ça aura un impact. Ça aura un impact sur le chiffre d'affaires. Si nous gardons les mêmes charges du personnel et que le nombre d'élèves baisse, en tout cas, ça va nous créer beaucoup de problèmes financiers. On sera obligé de remercier certains agents. Alors, je ne sais pas si ça peut enchanter l'État comme ça de sacrifier quelques personnes. Ça va poser beaucoup de problèmes.
L'invité.
Au Kasaï central, le gouvernement provincial délocalise depuis le week-end dernier les ex-réfugiés congolais retournés d'Angola vers le site d'Nkandi, situé à plus de 15 km du centre-ville de Kananga. L'invité de Radio Okapi, c'est le ministre provincial de l'Intérieur qui explique que cette opération se fait sur demande des partenaires. Il cite entre autres le PAM et le HCR qui affirment vouloir y entamer le processus de réintégration sociale de ces retournés. Tarsiste Kabatusuila s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour messieurs les ministres.
Bonjour.
Quelles sont les dispositions que le gouvernement provincial a prises pour résoudre la question de ces Congolais retournés d'Angola?
Merci beaucoup pour la question. Nos compatriotes retournés volontaires de l'Angola, on les a vus ici, vous les avez vus ici, vous les voyez encore. C'était notre devoir en tant que gouvernement provincial de les évacuer de leur point de chute qui était Kalamambouji et les amener à Kananga, à Dimbelingue, à Tibaya, à Demba et à Louise, j'en passe. Et lorsque ils ont été débarqués au niveau de Notre-Dame, beaucoup se sont volatilisés dans leurs familles respectives. D'autres ont choisi de rester au niveau de Notre-Dame, constituant un danger public. C'est comme ça qu'il a plu au gouvernement de la province de choisir un site de transit. Je vais vous dire entre parenthèses que nous n'avons pas le droit de faire un camp d'hébergement ici au Kasaï central. C'est ainsi que le camp que nous avons choisi, le camp de Nkandi, n'est qu'un camp de transit. Ceux de nos frères et sœurs qui sont rentrés et que nous assurons le transport de Notre-Dame jusqu'en Nkandi, ils vont là-bas pour un petit nombre de jours parce que déjà le HCR s'emploie à leur vérification. Vérifier effectivement qui est retourné volontaire. Après vérification, chacun prendra la décision de sa volonté. Donc on n'envoie personne par force. Celui qui avait choisi de rester à Kananga reste à Kananga dans une adresse bien déterminée. Ils sont vérifiés, identifiés et le HCR fait son travail. Mais quant à nous, on assure seulement le transport de Notre-Dame jusqu'au camp de Nkandi.
Vous avez à transporter combien d'ex-réfugiés congolais de la frontière jusqu'à Kananga?
Quant à la question de savoir combien nous avons amené depuis que l'opération a débuté, depuis Kalamambouji, Jusqu'à avant-hier, nous étions à 7518 personnes transportées.
Qui préconise l'exécutif provincial pour des retournés qui disent avoir perdu les traces de leurs membres des familles?
Ben, écoutez, vous rentrez au Kassai central, d'où vous êtes originaire. Si vous avez perdu un père et une mère, vous avez perdu vos enfants. Mais il y a une chose qui reste, que vous n'avez pas perdu, c'est votre famille. Vous n'avez pas perdu ni votre famille, ni votre village, encore moins votre ville. Vous êtes sur votre ville, tout Congolais peut s'établir n'importe où il veut au Kassai central. Personne n'a le droit de dire « ne venez pas chez moi ». Je donne un exemple si simple. Ils sont en Kandi. Quelqu'un dit « moi je ne quitte pas en Kandi, je reste ici ». Il s'établit, il est chez lui. Il est Congolais, il est chez lui, il est chez Kandi. Il fait ses activités comme d'habitude.
Que répondez-vous à ceux qui estiment que le processus de rapatriement de ces Congolais n'a pas été bien préparé en amont?
Les gens sont rentrés, ont choisi de retourner chez eux. Le jour où tout a commencé, ils ont quitté eux-mêmes leur site d'hébergement au niveau de l'Angola. Ils ont cassé la barrière, se réveillent le matin, on dit non, ces gens-là veulent rentrer chez eux. Ils sont en route. C'est comme ça que le gouvernement congolais ne pouvait pas faire autrement. On a commencé à les amener chez nous. Et nous, on ne pouvait pas abandonner nos frères et sœurs. Nous les avons accueillis à partir de Kalamambouji. Et nous disons, chacun va dans son village, dans sa famille. Il peut rester sur la ville de Kananga.
Qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait de l'enveloppe de 500 000 dollars américains envoyée de Kinshasa pour la gestion des retournés d'Angola?
Eh bien, c'est vrai, cette enveloppe de 500 000 dont on parle tant, ce n'est que pour nous aider à les transporter de Kalamambouji à Kananga, à Dimbelingué, à que sais-je encore. Mais de cette enveloppe, si ces gens-là sont sincères, il n'y a personne qui a pris place à bord d'un camion à Kalamambouji pour arriver ici, sans avoir reçu. Et nous avons donné quelque chose, et ça varie entre 10 à 120, ça dépend de la taille. Mais il faut savoir que les gens racontent n'importe quoi. L'État ne nous a pas donné l'argent à remettre aux gens pour les rap. Ça, c'est le travail du HCR, je vous le dis. Que le HCR, depuis avant-hier, quand ils ont commencé la vérification, ça leur permet à quoi? Ça leur permet de dire, par exemple, Nongala va aller à Katende Bakwabush, d'ici à Katende Bakwabush, il va s'installer. Le HCR donne du cash, c'est connu, à tout celui qui va choisir de s'établir où il voudra.
Messieurs les ministres, nous vous disons merci.
C'est la fin de ce journal, la première édition pour cette mi-journée. À 12h30, heure de Kinshasa, vous aurez droit à la synthèse de l'actualité. Restez à l'écoute du Média de la Paix, Radio Okapi.